Et le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver tous les deux et un retour sur la semaine qui démarre avec des retraités en colère. Et cet échange, c'était jeudi dernier entre Emmanuel Macron, le président de la République, et une retraitée.
Là, vous nous avez vraiment pompé.
Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer.
Les retraités, dites donc.
La CSG, on l'a pas fait pour pomper, comme vous dites. Non, on a baissé de 3 points toutes les cotisations salariales. Donc tous ceux qui travaillent touchent plus pour qu'ils gagnent plus par le travail, que ça redémarre plus vite, pour qu'ils puissent vous payer les retraites. Voilà,
ça fait jamais... Non, on n'est pas content.
Ça fait jamais plaisir, mais je l'assume.
Il l'assume, le président de la République, et il s'essayait un exercice de pédagogie, Natacha. Convaincant ou pas ?
C'est un exercice qui est d'autant plus compliqué qu'il y a dans cette question des retraités énormément de non-dits et j'allais dire de symboles divers et variés.
Pourquoi de non-dits ?
De non-dits parce que derrière, il y a la question du rapport entre les générations, notamment en France, c'est assez spécifique. Et c'est assez spécifique parce que c'est d'abord un rapport démographique. C'est-à-dire que les gens qui sont aujourd'hui à la retraite, qui sont les enfants du baby-boom, on va en parler aussi à propos de mai 68, ce sont ceux qui ont été les plus nombreux à tous les moments de leur existence. C'est-à-dire, enfants du baby-boom, ils étaient plus nombreux que la génération précédente. Et ils, comme ils ont fait peu d'enfants, ils sont plus nombreux que les générations qui suivent. Et du coup, ce rapport de force a sans doute joué dans les organisations, la façon de penser les rapports entre les différentes classes. Mais cela dit, il y a un problème majeur dans la façon dont on a pris, dont on entend parler de ce problème-là, et on le voyait cette semaine, c'est que les retraités, ça n'existe pas. Et qu'en globalisant les retraités, on fait croire qu'il y aurait des intérêts forcément communs au sein d'une même classe d'âge, alors que les différences sont vertigineuses entre les rapports.
Mais si Emmanuel Macron ne fait qu'appliquer l'une de ses promesses de campagne, à savoir la hausse de la CSG sur un certain nombre de retraités.
Et je pense que la logique qu'il met en avant n'est pas indéfendable. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte d'élargir l'assiette. Ça fait des années qu'on explique que cette assiette est trop étroite. C'est-à-dire de faire en sorte que, l'ensemble des charges ne pèse pas sur les seuls travailleurs dans un contexte où on a un chômage de masse terrifiant.
Raphaël Glucksmann.
Oui, pour que les critiques soient audibles, il faut quand même prendre en compte ce fait que aujourd'hui en France, contrairement à il y a 50 ans par exemple, la richesse nationale favorise les classes les plus âgées par rapport aux plus jeunes et qu'il y a une vraie misère de la jeunesse française aujourd'hui et que donc dans le cadre d'un effort collectif de redistribution des richesses, c'est pas inconcevable et indéfendable d'imaginer d'appeler des classes plus âgées à contribuer à cet effort. Le problème,
ils sont pas tous riches.
Il est là, voilà. Mais le problème, il est là, c'est que cet effort, il n'est pas global et il n'est pas juste. Et c'est ça qu'Emmanuel Macron aura du mal à faire passer, parce que la principale inégalité en France, c'est pas une inégalité entre classes d'âge homogène, c'est une inégalité sociale entre classes sociales. Or là, l'effort de redistribution, il n'est pas demandé aux plus fortunés d'entre nous. Et donc on en revient toujours à ce point que, à mon avis, le gouvernement va traîner comme un boulet, qui est qu'on trouve 5 milliards pour faire l'allègement, enfin diminuer l'impôt sur la fortune, et que par ailleurs, donc on abandonne l'idée d'une redistribution entre fortunés et gens moins fortunés. Et c'est ça. Et au-delà de cela aussi, il y a une autre question qui se pose, c'est la relation du macronisme avec ce qu'on appelle les inactifs. C'est-à-dire que là, on a toute une série quand même de provocations ou de polémiques qui se succèdent les unes aux autres. On trouve les 5 milliards pour les plus riches d'entre nous, on ne les trouve pas pour les EHPAD. On trouve que les chômeurs doivent être contrôlés parce qu'ils ne veulent pas travailler, que les sans-abri ne veulent pas être abrités. Et donc, il y a un problème. Bien sûr qu'il faut revaloriser le travail, mais comment une société considère-t-elle ceux qui dépendent de la solidarité nationale? Et ça, c'est quelque chose qui est assez problématique chez Macron.
Natacha Polony.
On pourrait ajouter un autre problème qui est la différence de statut et de niveau de vie entre cette part des retraités qu'on peut appeler jeunes retraités, qui font partie justement de ceux qui ont bénéficié des longues carrières, d'un immobilier plutôt faible, d'une inflation qui permettait de rembourser des crédits, et puis ceux qui sont passés déjà dans le quatrième et le cinquième âge, c'est-à-dire dans la dépendance en fait, qui n'a absolument pas été anticipée. Et il y a en fait quelque chose d'assez frappant dans ce problème, c'est que nous allons là payer collectivement une absence totale d'anticipation et de courage politique, mais là où je rejoins Raphaël, c'est dans le fait que tant que le problème, c'est de refuser de sortir du cadre de pensée. À partir du moment où on garde le système tel qu'il est aujourd'hui, en effet, il faut que tout le monde contribue. Le problème est que ce système est fondé sur l'idée que nous devrions accepter ce qui aujourd'hui permet une évasion, une optimisation fiscale à grande échelle, donc un appauvrissement, et qu'après on prend ce cadre-là, ce cadre où il y a une dette, etc., et on dit à tout le monde, et notamment aux retraités, bah écoutez, faut contribuer. D'accord, donc la question c'est comment on fait pour que ce soit les plus riches, pour que ce soit les multinationales qui contribuent à leur juste part, et là, on pourra commencer à discuter. En revanche, il ne faudrait pas que des gens qui votent pour la perpétuation de ce système viennent se plaindre ensuite d'être les victimes de cela.
Encore un mot, Raphaël, sur ce sujet.
Non, la vraie question, c'est celle de la justesse et de la justice, de l'équité. Et il me semble que les retraités accepteraient de contribuer à un effort national à condition, évidemment, que cet effort soit justement réparti. Et c'est ça le problème immense qui va miner, à mon avis, la crédibilité du gouvernement dans ses réformes. C'est que la sensation est extrêmement forte que le fardeau n'est pas également partagé en fonction des richesses des uns et des autres.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Deuxième sujet à l'ordre du jour et un droit de suite dans l'émission puisque nous avons déjà croisé la question ces derniers mois. Écoutez.
Les Français ne savent pas qui je suis et je suis pour l'immense majorité d'entre eux une page blanche. Et donc, nous sommes à nouveau d'une certaine façon une page blanche. Notre rassemblement n'est pas une option. Il est un impératif. Quand on part de si loin, quand il y a tant à faire, quand il faut tout changer, tout reconstruire, on a besoin de toutes les énergies et de toutes les forces pour réussir.
Les Français ne savent pas qui je suis. Un homme qui est une page blanche. Vous avez reconnu cette voix, Natacha, Raphaël.
Monsieur Faure.
Exactement. Oui. Olivier Faure, président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale et qui sera donc désigné premier secrétaire du Parti socialiste. L'homme du salut pour le PS. Je vous regarde l'un et l'autre, Natacha Polony.
Écoutez, je crains, hélas, que Olivier Faure reste pour quelque temps, non peut-être pas une page blanche, mais en tout cas, certainement pas celui que les Français attendaient. Disons qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à voir la différence entre le sympathisant politique, le citoyen, et puis le militant, qui est une race à part. Et là, en l'occurrence, on remarque à chaque fois qu'il y a une élection spécifique avec des militants, à quel point ils choisissent des personnages qui ne sont pas forcément les mieux à même de tirer leur propre parti des difficultés où il est. Mais derrière l'avènement d'Olivier Faure,
ils ont voté parmi quatre candidats.
Oui, bien sûr, mais bon.
Enfin, je ne sais pas si dans les quatre,
Raphaël Glucksmann. Non,
il n'y avait pas l'idéal forcément dans les quatre.
Mais je ne pense pas que ce soit une question d'homme. Alors, c'est une page blanche, donc ne le chargeons pas trop. Je ne pense pas que ce soit une question d'homme. Je pense que c'est un problème structurel du Parti socialiste qui a perdu sa crédibilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un espace. Alors, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a, moi, je suis convaincu qu'il y a un espace politique. Il y a un espace politique immense entre M. Macron et M. Mélenchon. Il y a un espace politique pour une gauche en France. Ça me semble évident. Et simplement, je des doutes assez forts sur, c'est le cas de le dire, sur la capacité de M. Faure et du Parti Socialiste de constituer cet espace en offre politique.
Cet espace, une
crédible.
Opposition? Une opposition au président de la République et à son gouvernement?
Mais bien sûr, un parti
vous
ou
bien
un mouvement.
Sûr,
mais un mouvement.
Attendez, Raphaël, Olivier Faure, le 9 mai 2017, c'était il n'y a pas si longtemps, je le cite, nous voulons la réussite de Macron, nous souhaitons participer à cette majorité. Fin de citation.
Oui, bah, c'est une.
Comment va-t-il porter une opposition?
Tout le monde souhaite la réussite d'Emmanuel Macron.
Non, nous souhaitons participer à cette majorité.
Et par contre, on peut tout à fait comprendre, vu la politique menée par Emmanuel Macron, qu'il y a un espace à gauche qui ne sera pas dans l'adhésion aux réformes et aux discours de M. Macron. Donc là, à mon avis, il y a juste une erreur stratégique dans cette phrase. Et en règle générale, dans cette incapacité du Parti Socialiste depuis fort longtemps, à définir une identité politique.
Oui, alors le problème, à mon avis, Raphaël, est plus vaste que ça. Et d'ailleurs, dans ce vote, finalement, Olivier Faure incarne mieux que les trois autres candidats toutes les contradictions de ce qu'on appelle la social-démocratie. Et tant qu'on ne redéfinira pas cette supposée social-démocratie ou tant qu'on ne passera pas à autre chose, c'est-à-dire sans doute à un véritable socialisme, ce qui normalement devrait être la promesse d'un parti qui s'appelle Parti Socialiste, eh bien, on se retrouvera dans cette impasse parce que la social-démocratie telle qu'elle a été pratiquée depuis des décennies partout en Europe n'a été que l'acceptation du néolibéralisme tel qu'il existe aujourd'hui, avec l'idée qu'on allait soigner les grands blessés de cette mondialisation.
Ouais, alors c'est pas une affaire de mots, parce que la social-démocratie, originellement, c'est pas l'acceptation simple du marché, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux que le social-libéralisme qui nous a été servi pendant des années. Mais effectivement, il y a un problème structurel dans cet espace politique, en France et ailleurs en Europe, qui est qu'ils ont accepté, les sociaux-démocrates, de réduire la politique à de la gestion et à de la com.
Et c'est un hasard s'ils l'ont tous accepté. Ou est-ce que c'est intrinsèquement lié à la nature de la social-démocratie ?
C'est une très bonne question qu'on aura l'occasion d'explorer une autre fois. En l'occurrence, la page est blanche. Qui sait s'ils auront l'angoisse de la page blanche ou si au contraire, les socialistes deviendront graphomanes.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Et avant d'accueillir Jean-Pierre Le Goff, un sujet sur lequel vous vouliez revenir, Raphaël Glucksmann, en l'occurrence, c'était cette semaine la révélation de documents confidentiels par le journal Le Monde et qui pointent la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda.
Oui, et aussi la publication d'un livre, celui d'un ancien capitaine de l'armée, Guillaume Ancel. Et son témoignage fait suite au témoignage de plusieurs militaires français, dont Rémi Duval ou le héros, la légende du GIGN, Monsieur Prugnot, qui ne sont pas des gauchistes militants ou des intellos droits de l'homiste, et qui tous disent la même chose. Ils nous disent quoi ? Que la France a aidé des troupes génocidaires alors même que le génocide a eu lieu, en leur donnant des armes, et là c'est Ancel qui nous révèle ça, et même en leur virant, en leur versant directement leur salaire. Donc des gens qui venaient de tuer 800 000 Tutsis, eh bien, étaient payés par l'État français. Et donc, on se retrouve dans cette situation qui est que nous sommes face au plus grand scandale de la Ve République et aussi à son secret le mieux gardé. Et donc, le secret commence à être érodé grâce au témoignage de ces militaires. C'est un moment extrêmement important. Vous savez, moi, j'ai passé des années à enquêter sur le Rwanda. Et on sait aujourd'hui que la France a armé et a soutenu des troupes qui allaient commettre un génocide avant le génocide, qu'elle a continué à les soutenir pendant le génocide et qu'elle a même continué à les soutenir et à les armer après le génocide. Et donc là, on est face à un vrai scandale d'État et l'État français a toujours pas été capable de faire la lumière sur son passé. Les archives ne sont toujours pas totalement déclassifiées et il n'y a toujours pas eu de véritable discours sur ce que la France a fait au Rwanda.
Natacha Polony.
Je pense en effet qu'il est nécessaire d'ouvrir les archives, de les déclassifier, qu'il est nécessaire d'essayer de regarder en face ce qui s'est passé à ce moment-là et qui n'a rien finalement d'une distinction entre des méchants et des gentils. Malheureusement, on est typiquement dans le genre de cas où on avait, j'allais dire, des salauds face à d'autres salauds et hélas, la France sans doute participer à cela.
Quel salaud et quel autre salaud ?
C'est-à-dire que je pense qu'il n'y avait pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants dans cette histoire et la dérive.
Non, mais il y a eu un génocide.
Oui, bien sûr, il y a eu un génocide.
Un génocide, c'est il y a des bourreaux et des victimes.
Bien sûr.
Il faut arrêter de maintenir tout le temps ce gris. Je veux dire, c'est pas, il n'y avait pas des salauds face à des salauds. Il y avait
et aujourd'hui, nous sommes face à un régime qui est un régime qui est devenu totalement dictatorial et qui accomplit là aussi des exactions vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis de l'ensemble des oppositions. Et hélas, nous sommes dans cette situation-là qui est consternante et effarante. Et il ne s'agit pas, ça n'est absolument pas à remettre en cause le génocide que de dire qu'il y a ce fait-là et que malheureusement la France a participé en sans doute, et c'est cela qu'il faut prouver, en donnant des armes, en choisissant un camp là où il ne fallait pas choisir
mais aider
et empêcher les massacres.
Eh bien, aider et empêcher les massacres, ça aurait supposé de s'opposer à ceux que nous avons soutenus. Parce que ce ne sont pas des salauds face à des salauds. Jamais on ne dirait, en 1900, alors que pourtant les troupes russes, les exactions des troupes russes soviétiques libérant l'Europe à Berlin sont absolument énormes, bien plus grandes que celles du FPR, puisqu'il est question d'eux, au Rwanda. Jamais on ne dirait ce sont des salauds face à des salauds. Non, ce ne sont pas des salauds face à des salauds. Il y a un régime tout à fait détestable aujourd'hui au Rwanda, il n'est pas génocidaire. Et en 1994, il y a des gens qui commettent un génocide et des gens qui sont victimes du génocide. Et la France, malheureusement, Et c'est notre honte. Et c'est là-dessus que nous devons faire la lumière. La France a choisi d'être du côté de ceux qui commettaient le génocide. Ça veut pas dire que la France a voulu le génocide, mais ça veut dire qu'à aucun moment, le fait qu'il y ait génocide n'a entraîné de remise en cause de la politique française. Ce n'est pas des salauds face à des salauds. C'est des bourreaux face à des victimes. On a choisi le camp des bourreaux.
On ne définit pas les gens par bourreaux et victimes.
Si, en l'occurrence, dans un génocide, on les définit par bourreaux et victimes.